Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir une page, une première page dans notre Bible. C'est dans le livre de Job. Vous connaissez ? Livre de Job. Hein, si quelqu'un peut parler de la souffrance, c'est lui, hein ? Et il est le personnage emblématique de l'humanité souffrante. On peut dire ça, hein ? Et il nous laisse une formidable confession de foi, d'espérance. Parce que quand on souffre, l'espérance, c'est important. Hein. Les gens qui souffrent et qui sont sans espoir, hein, qui n'ont pas où se raccrocher, à qui se raccrocher, sont eh bien là en errance, dans toutes sortes de craintes, de peurs, de frayeurs, d'angoisses, d'anxiétés. Enfin bon, on peut multiplier tout ça, mais on a dans les pages du livre de Job, une magnifique certitude, une formidable assurance, et quand bien même, parce que ça c'est le propre de tous les hommes, c'est que on vit, on souffre, on peut être malade, et être guéri, en réchapper, puis on peut être malade et puis en mourir, tout simplement. Et d'une manière ou d'une autre, de toute façon, notre vie, elle est entre ses limites, hein, entre naturellement, et bien ce moment où nous arrivons et puis le moment où nous partons. Alors souvent, eh bien, il y a des gens qui ont une bonne fortune, on pourrait dire. Hein, si on voulait être un petit peu plus populaire, on dirait c'est la bonne étoile. Mais pour un chrétien, c'est pas la bonne étoile, c'est pas la bonne fortune, parce que finalement, eh bien, tout est entre les mains de Dieu. Notre souffle, c'est vrai. Et nous avons cette belle confession. Et j'aimerais justement lui donner un petit commentaire pour nous fortifier les uns et les autres. Alors, on n'est pas là en effet, à mourir, hein. On espère vivre par la grâce de Dieu, mais je pense que ce sont des paroles qui demeurent et qui ont traversé les siècles. Alors, on va lire ça, c'est dans Job, livre de Job, chapitre 19, et vous allez reconnaître ce passage parce que c'est à la fois un poème, mais c'est tellement bien dit, tellement bien exprimé, avec force, avec cette détermination dans le cœur de Job, que Job avait une certitude, il avait une espérance par-delà tout ce qui pouvait lui arriver. Alors, Job, chapitre 19 et verset 23, nous nous retrouvons sur ce verset 23. « Oh, dira-t-il, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre, je voudrais qu'avec le burin, ou avec un burin de fer et avec du plomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Alors, là, nous trouvons des mots qui sont extraordinairement réconfortants. Parce que je suppose que le pauvre Job, lorsque l'on lit la totalité de ce livre qui porte son nom, on s'aperçoit que, on dirait aujourd'hui, il en a vu toutes les couleurs, hein. Que ce soit la souffrance physique, terrible, impossible à supporter, que ce soit les souffrances, les peines et les chagrins, avec la disparition de ses enfants, avec l'anéantissement de sa vie au travail, puisqu'il ne restait plus rien du tout. Un tsunami, un ouragan est passé sur sa vie. À travers l'incompréhension de ses meilleurs amis qui vont lui tourner le dos, à travers également le reniement, nous pourrions dire, de sa femme, qui lui dit, bah, tu crois en Dieu, regarde ce qui t'arrive. Eh bien maintenant, c'est ce que tu fais, tu maudis Dieu et tu meurs. C'est très réconfortant. Hein. Quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous dit des paroles comme ça, ça vous donne envie de vivre. Hein. Ça, c'est clair. Et puis, sur le plan psychologique, hein, parce que il faut bien se mettre à la place de Job, ça a été terrible. Surtout qu'il ressentait, ou il pressentait qu'il y avait autour de sa vie une ombre funeste, une ombre mortelle, sans savoir ce qui lui arrivait. Parce qu'il y a des choses qui sont purement naturelles et humaines. Mais nous, on le sait maintenant, parce que quand on lit ce qui nous est dit, on sait qu'il y avait un enjeu sur la tête de Job. C'est-à-dire que, parce qu'il était intègre et juste, parce que c'était un homme qui cherchait le bien, il fuyait le mal, eh bien, il y avait un défi sur sa fidélité, sur son intégrité, et ce défi, c'était un défi qui avait été lancé à Dieu sur le nom et la tête de Job, par le diable, tout simplement. Le diable. Vous savez que l'adversaire, le diable, Satan, on peut l'appeler de diverses sortes, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il n'aime pas ceux qui aiment Dieu. Il n'aime pas ceux qui servent Dieu. Il n'aime pas ceux qui adorent Dieu. Ce soir, je voudrais quand même vous dire que le diable ne vous aime pas parce que vous êtes venu écouter la parole de Dieu. Il vous aime pas. Vous aviez pensé peut-être qu'il pouvait y avoir quelques petits sentiments de tendresse. Alors, détrompez-vous, le diable n'aime pas ceux qui aiment le Seigneur. Et vous savez, c'est bien la peine, c'est bien la souffrance qu'endurent, eh bien, tous les hommes qui sont portés vers la vérité, vers la justice, vers l'amour, vers le bien des autres, vers la gloire de Dieu. Alors ça, c'est l'histoire de Job. Et Job écrira ces paroles, je ne sais pas à quel moment de sa vie, mais en tous les cas, eh bien, en tous les cas, ça a été recueilli. Alors, il ne les a peut-être pas écrits, mais enfin, en tous les cas, il les a dictés. Ça a été écrit par la suite, heureusement. Hein. Et la Bible, c'est tout cela. Ce sont des histoires, soit qui ont été, eh bien là, rédigées par les auteurs, rédacteurs eux-mêmes, de leur misère et de leur souffrance, ou alors, eh bien, ce sont d'autres qui ont recueilli tout cela. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Job, c'est vraiment l'image hein, emblématique de l'humanité souffrante. On peut dire ça comme ça. Alors, il dira ces mots, il dira, mais je voudrais que mes paroles soient écrites. Bien, Job, parce qu'elles ont été écrites. La preuve, on les a devant nous. Hein. Et Job, c'est certainement, eh bien là, dans des temps très, très, très lointains de l'histoire de la Bible. Hein. Faut pas penser que ça fait quelques siècles, mais la réputation du livre de Job, c'est que c'est un livre très, très ancien. Premier jour, peut-être, de l'humanité sur la Terre. Alors qu'elle soit écrite dans un livre, très bien, on a le livre, et on sait ce qu'il a dit, on sait ce qu'il a vécu, et Job, maintenant, va nous livrer son secret pour savoir, connaître, apprécier, recourir à celui qui peut nous délivrer de tout mal et nous en faire triompher. Alors il dira, mais je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, vous savez, ce sont des instruments, burin de fer, un burin, c'est quand même un outil très fort, hein, c'est pas un petit marteau, c'est pas un petit maillet, c'est ça, hein, un burin, c'est quelque chose, certainement, voilà, hein, c'est une pièce de fer résistante, un bureau de fer, et avec du plomb. Et que cela, eh bien, puisse être finalement gravé sur le roc. Vous savez, on se sert de la pierre partout dans notre monde. Hein, quand il y a des stèles, quand il y a des statues, quand il y a sur les tombes dans les cimetières, c'est sur de la pierre, hein, parce que faut que ça dure. La mémoire d'un tel, la mémoire de héros, la mémoire de gens qui se sont illustrés. Alors, à travers les intempéries, à travers le temps, à travers, ça ne bouge pas. Hein, il y a des, on a retrouvé en archéologie des inscriptions qui sont vieilles de 4000, 5000 ans et peut-être davantage, hein, on a du mal à dater. Et c'est resté intact. Voilà, parce que c'était dégravé dans la pierre. C'était gravé avec force. Et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire. C'est comme ça que l'Antiquité nous rejoint aujourd'hui. Et qu'il y a des gens qui ont passé toute leur vie à déceler ou à décrypter eh bien, certains langages, le cunéiforme, les hiéroglyphes, enfin tout ce que vous voudrez, hein. Et comme ça, on a su qu'il y avait des hommes avant nous. On a su comment ils vivaient. On a connu, là, finalement, l'histoire, hein. Alors, il y a des histoires qui sont sinistres, puis il y a des histoires qui sont des belles histoires, finalement, hein. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait que, quelque part, ses paroles, donc paroles, son histoire, ce qu'il a vécu, eh bien, soit gravé dans le roc. Alors, le mot roc, on va le retrouver d'ici quelques... roc, rocher, on va le retrouver d'ici peu de temps. Et il dira, il veut que ça soit écrit. Et c'est écrit pour nous, hein. C'était pas pour lui, naturellement, mais pour nous. Et il dira, mais je sais, malgré mes peines, malgré mes larmes, malgré mes chagrins, malgré mes souffrances, de quelle corde elles soient, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Et c'est Dieu qui est mis en avant, à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Rédempteur? Ah, il était déjà en avant sur son temps, hein. Parce qu'un Rédempteur, c'est celui qui rachète. Et comme c'était probablement dans une époque où il y avait beaucoup d'esclaves, que l'on achetait, que l'on vendait, que l'on revendait, ou peut-être de gens qui étaient rachetés parce qu'ils avaient commis des délits et puis quelqu'un a versé une rançon, ça pouvait être ça aussi, eh bien nous avons et nous sommes déjà plongés dans le cœur du message évangélique qui viendra très 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 longtemps après Job, mais il nous livre une formidable leçon, il dit « Je sais comment un Rédempteur est vivant ». Vous savez, si vous voulez que je vous le traduise, Job nous dit, je sais que mon Dieu, je sais que le Dieu qui est dans le ciel, c'est pas un Dieu mort comme les idoles, c'est pas un Dieu mort que l'on a mis en effigie, que l'on devant lesquels, eh bien la multitude se prosterne dans leur ignorance, mais c'est un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est vivant, il est puissant, et c'est celui qui peut me racheter de toutes mes peines, de toutes mes misères, qui peut me consoler et me donner la vie, mais la vraie vie, pas une existence, mais la vraie vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et que ce Rédempteur, une des premières prophéties du retour de Jésus-Christ, si vous voulez, on peut le dire comme ça, ou la venue de Christ et son retour, que nous attendons encore aujourd'hui, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Moi, je dis que c'est un message plein d'espérance, extraordinaire, pour tous ceux, individus ou peuples, nations, qui ont été bridés, qui ont été maltraités, qui ont été déportés, qui ont été exterminés. Ça, c'est une parole extraordinaire et c'est dans notre Bible que nous trouvons des paroles comme ça. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, Jésus se présente comme étant le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, première lettre de l'alphabet grec et dernière lettre de l'alphabet grec. Il est le commencement et il est la fin. C'est formidable, hein? Moi, je ne sais pas comment vous recevez ces paroles, mais moi, vous les disant et en les pensant, en les traduisant, en les partageant ensemble ce soir, moi, je crois que c'est quelque chose qui est extraordinaire quand on voit le sens des mots et le sens du message de Job. Un homme qui vivait à une autre époque que nous, et il se lèvera le dernier jour. Mais il va dire, et ça, c'est le chemin de toute la terre, de tous les hommes, c'est qu'il y a la vie. Et puis, il y a cette chose qui est sombre, qui fait peur à l'humanité, et qui ne doit pas être redoutée par les enfants de Dieu, puisque notre Rédempteur est vivant, et qu'il vient, qu'il se lèvera. Et il nous est dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera, après que ma peau aura été détruite. Voilà. Job fait allusion. Sentait-il et pressentait-il peut-être sa fin proche? Mais peu importe, quoi qu'il en soit, ce soit proche ou lointain, vaut mieux lointain que proche, hein, pour chacun d'entre nous, hein, naturellement. Mais il dira, ce qu'il veut dire, c'est que ce que je suis sur cette terre, dans la représentation que je peux avoir de la créature que je suis, et Dieu m'a créé ainsi, c'est-à-dire que mon corps n'est qu'un véhicule passager, temporaire, pour me donner de traverser, finalement, eh bien, les jours que Dieu m'a donnés, et un jour, eh bien tout cela disparaîtra, mais il restera l'essentiel de ce que je suis, c'est-à-dire mon âme et mon esprit. Notre corps, où on fait grand bruit aujourd'hui, où les gens misent des sommes phénoménales pour entretenir leur corps, Hein, c'est pas seulement l'hygiène élémentaire, c'est pas ça, mais le sport, hein, la ligne, hein, la mode, hein, les prouesses, se faire un nom, parce que voilà, avec notre corps, on a fait ceci et cela. Avec notre corps, on peut être un excellent chanteur, les parties du corps, le chant, hein, ou un excellent acteur, la beauté, toutes sortes de choses. Ah oui, ça c'est le corps, on l'entretient, on le pousse, parce que il semblerait que nous sommes dans une société où les hommes d'aujourd'hui, comme les hommes d'hier d'ailleurs, n'ont vu que la vie, ce n'était que le corps. Quand ma peau sera détruite, il ne restera rien. Alors c'est vrai que c'est pas très très agréable, hein, mais néanmoins l'essentiel, et ce qui fait la raison de ce que je suis, de ce que j'attends, mon espérance, c'est pas ce qui se voit, c'est précisément ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est mon âme et c'est mon esprit. Quand ma peau sera détruite. Et vous savez que pour voir Dieu, bien, il faut que tout cela soit consommé. Il faut que tout cela, c'est quand même terrible. On nourrit un enfant, un beau jeune homme, une belle jeune fille, un homme, un adulte, dans la pleine force de l'âge. Ensuite, eh bien, il y a cet autre versant qui est la vieillesse. On est compté. Et si nous n'avions qu'une seule raison de dire, eh bien, j'ai vécu que pour cela, eh bien, nous serions les plus malheureux de tous les hommes, comme nous dit l'apôtre Paul. Mais il y a la résurrection. Il y a quelque chose qui nous donne par-delà. Alors, un chrétien, comme tout le reste des hommes, entretient sa vie, entretient son corps, etc. Pas pour ça qu'il faut se négliger, hein. Faut se laisser pousser la barbe jusqu'aux genoux. Enfin, pas pour les dames. Mais une chose qui est certaine, c'est que, toujours est-il que, voilà, ça fait partie de tout cela. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une priorité dans notre vie. C'est notre vie intérieure. Ce que Jésus appellera, ou Paul plutôt, appellera le nouvel homme, l'homme nouveau à l'intérieur. Il ne se voit pas, mais il envoie des messages. Il a un rayonnement, parce que cet homme nouveau n'a plus rien à voir avec l'image de l'homme ancien, de l'homme perdu, de l'homme désespéré, de l'homme qui craint la mort et qui la redoute. C'est parce que justement, eh bien, il envoie ses messages à l'image de celui qui l'a sauvé. À l'image de Jésus-Christ, tout simplement, parce que Jésus habite en lui. Et c'est cette vie qui est là. On appelle ça une nouvelle naissance, figurez-vous. C'est ce que Jésus la nomme de cette manière. Hein. Alors, quand elle sera détruite, il se lèvera. Quand nous quittons cette terre, mes amis, il nous est dit que nous nous reposons dans le Seigneur Jésus. Voilà. Il est au ciel. Et puis un jour, eh bien, nous serons ressuscités avec un corps nouveau. Et pas tout de suite, au dernier jour. Alors, ça fait partie des choses assez étranges et mystérieuses, mais la Bible nous lève un peu le coin du voile pour que nous continuions à espérer. Et pourquoi nous espérons? Parce que nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais Job n'avait rien du tout, lui. Et il le sentait par l'Esprit qui était en lui, parce que c'était une créature de Dieu. L'Esprit de Dieu l'animait, et il pouvait dire, mais il se lèvera. C'est un prophète, Job, en quelque sorte. Eh oui. Il en savait mille fois moins que nous, et il avait cette espérance pour l'affirmer. « Moi-même, dira-t-il, quand tout cela aura disparu de mon enveloppe charnelle, eh bien je contemplerai Dieu. » C'est pas n'importe quoi, je contemplerai Dieu. C'est que je verrai Dieu. Il est impossible de voir Dieu avec notre nature charnelle humaine. Pas possible. Moïse a essayé, hein. Vous connaissez l'histoire. « Fais-toi voir, mon Dieu. Montre-moi. » Dieu lui a dit, c'est pas possible. Il est impossible à l'homme de voir Dieu et de vivre. Donc ça veut dire qu'il va mourir. Mais, passé cette étape de vie, d'existence charnelle, où nous aurons déposé cette enveloppe, qui ne servira plus. Ça ne sert plus. Alors à ce moment-là, eh bien, il y aura une vision qui sera une vision spirituelle des choses d'une autre réalité invisible. Une réalité spirituelle. Et là, nous verrons Dieu face à face. Nous le verrons face à face. Voir mon Sauveur. Oui, quelle grâce. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Je contemplerai Dieu. Je le verrai. Et figurez-vous que d'autres, tellement de gens le redoutent de voir Dieu. Voir Dieu juge. Voir Dieu qui condamne. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel. Job dira, et il annonce la grâce de l'Évangile, il me sera favorable. Nous n'avons aucune crainte. Si nous restons fidèles au Seigneur jusqu'au bout, nous le verrons et nous aurons cet accueil de Dieu. Aucun problème. Je voudrais vous le dire. Nous n'avons pas à avancer dans cette crainte perpétuelle, permanente, qui détruit notre vie, puisqu'il n'y a plus de condamnation, puisque j'ai accepté Jésus-Christ, c'est lui maintenant qui a pris finalement et bien mes péchés et qui les a expiés. Je le verrai, il me sera favorable, ça sera l'accueil, c'est le pardon total et complet. Et c'est ça ce qui est formidable de pouvoir le dire. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Je me trompe pas, c'est bien moi. Et c'est chacun d'entre nous. Hein. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je soupire, hein, comme le psaume 42 où il est dit, mais comme la biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. Ouais. Alors je dis à mon âme, ne t'inquiète pas. Ne t'affole pas. Puisque les choses sont déjà préparées. Tout est préparé, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Il y a un fait de bonne nouvelle. On va aller voir ce que justement nous dit Jésus. Parce que là maintenant, nous savons que on a parlé de roc, celui qui ne se détruit pas, celui qui demeure. Un roc, ça demeure pour l'éternité. Hein. Vous savez, les rochers qui sont à Saint-Nazaire, hein. Il y en a d'autres qui les ont vus avant nous. Hein. On les a pas plantés, on les a pas arrosés pour que ça pousse. Hein. Ils sont là depuis... Eh, peut-être qu'on peut compter des millions d'années, vous vous rendez compte? Eh oui, parce que ça reste, c'est gravé. Eh bien, il y en a un qui reste, qui est le premier, le dernier, qui sera toujours. Il est éternel. Les années n'ont pas de prise sur lui, puisqu'il est dans l'éternité. Jésus est éternel. Alors, nous avons dans Jean, et on va voir, parce que c'est une belle aussi complémentarité que l'on peut donner à notre méditation ce soir. Jean, chapitre 6, verset 66. Alors, c'est un des plus grands chapitres de la Bible. Et il y en a pas mal, hein, celui-ci. Hein. Il y a 71 versets. C'est pas mal. Il y en a aussi longs, mais bon, 71. Alors, on va lire un petit peu ce qui nous est dit, parce que ça fait la complémentarité de ce que Job nous annonce. Et là, c'est Jésus. Jésus parlait du Rédempteur. Il parlait de Dieu. Eh bien, c'est Jésus maintenant qui est apparu, qui est venu parmi les hommes pour donner la réalité, donner corps, donner une réalité finalement, eh bien, à toute cette espérance enfouie dans les siècles que Job portait dans son cœur. Verset 66. Jésus dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec Jésus, avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ah, ça c'est intéressant. Nous approchons de la révélation. Nous sommes dans la révélation attendue. Quand il est dit, mais j'attends avec espérance, j'attends le jour. Eh bien maintenant, ça y est, le jour est réalisé. Il a fallu tourner peut-être plusieurs centaines de pages dans notre Bible, et nous voilà devant celui qui est venu, celui qui reviendra au dernier jour, celui qui sera au dernier jour, mais il est venu dire aux hommes l'espérance de Job, que Job ne s'est pas trompé, et c'est à partager ensemble. Jésus avait dit des choses un petit peu compliquées pour éprouver la consécration des disciples, pour savoir si vraiment ils voulaient suivre un faiseur de miracles où ils avaient reconnu en lui le Messie d'Israël et le Fils de Dieu. Alors à un moment donné, Jésus leur dira, mais si vous ne mangez mon corps, ma chair, et si vous ne buvez mon sang, vous connaissez l'histoire, hein, c'est répugnant des choses comme ça, mais Jésus ne disait pas les choses d'une manière matérialiste, il les disait en esprit. C'est ce que font des millions et des millions et des millions de chrétiens de par le monde encore aujourd'hui, lorsque nous partageons la Sainte Cène en commémoration, eh bien, tout simplement du sacrifice de Jésus qui a donné son sang pour le pardon de nos péchés et son corps pour que nous puissions, eh bien là, nous approcher du Père, être guéris de nos maladies, la rédemption de nos êtres complètement et totalement. Voilà. Et Jésus leur avait dit, mais si vous ne prenez mon sang, si vous ne buvez mon sang et mangez mon corps, l'image du vin et de tout simplement du pain, alors les gens, ça les avait scandalisés. Ils avaient dit, bah, si c'est pour suivre nous, on n'est pas, hein, on n'est pas carnivores. On n'est pas là à se manger les uns les autres, hein. Quoique les gens se mangent d'une autre manière. Hein. Ils se mangent la barbe. Hein. Ça, quelquefois, quand on voit tous les différends qu'il peut y avoir dans le monde, les guerres et tout ce qui, ah, ils se mangent. Hein, ça, c'est sûr. Mais c'est pas la question. La question n'est pas là. Alors, certains se sont retirés et n'allèrent plus avec Jésus parce qu'ils avaient honte. de ce fameux prophète de Nazareth qui disait des choses tellement étranges qu'il ne pouvait pas les comprendre. Mais on ne peut les comprendre parce que ce sont des paroles qui ne sont qu'esprit et vie. Ça, c'est encore une autre dimension. Alors Jésus s'est tourné vers les 12 et leur a demandé, « Vous, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller comme tous les autres ?» Ah oui, l'évangile est prêché, mais il y a beaucoup de défections. L'évangile enthousiasme dans un premier moment en disant « C'est une bonne nouvelle, c'est formidable. » Et puis il y en a beaucoup qui décrochent en cours de route. Nous ne sommes pas de ceux-là, puisque vous êtes là. Mais il y a bien des gens qui ont été enthousiasmés parce qu'ils ont entendu le message de l'évangile en disant « C'est extraordinaire !» J'ai entendu des choses que je n'ai jamais entendues dans ma religion. Eh oui, mais de toute façon, la religion et puis l'évangile, c'est le jour et la nuit, hein. Si vous permettez que j'ose dire ça. Alors, vous voulez pas vous en aller, vous aussi, dira Jésus. Et là, nous avons Simon Pierre. Vous connaissez Pierre, hein? Un homme qui est toujours très spontané. Mais là, il dit des choses formidables. Il dira, Seigneur, à qui d'autre ou à qui irions-nous? Pierre rejoint Job avec ses convictions et ses certitudes. Et un chrétien, c'est un homme qui a des convictions et des certitudes et pas des opinions passagères, versatiles, un jour oui, un jour non. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui a dans son cœur gravé son cœur comme un roc, comme un rocher, dans le bon sens du terme, où c'est gravé à l'intérieur de lui-même, et ce qui est gravé, c'est marqué « Jésus, mon sauveur ». Ça, c'est tout. « Ne voulez pas vous en aller ?» Non, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ? On est tout à fait conscients, les uns et les autres, qu'un jour nous avons eu l'insigne privilège qu'on nous parle de Jésus et nous avons cru en Jésus-Christ. Ouais. Oh, il y a eu un cheminement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. On avait entendu parler d'un Jésus religieux d'une manière tellement charnelle que bon, on n'avait pas forcément envie de le suivre. Et puis, par toutes les mésaventures ou les aventures de la vie, de l'existence, on a eu besoin de lui. On a crié à lui sans le voir, sans le reconnaître, mais il nous a répondu dans notre misère. Et là, nous avons commencé à faire des expériences. Nous avons commencé à toucher du doigt qu'il était vivant, que ce Dieu nous aimait, qu'il n'était pas là pour nous chasser, pour nous haïr, pour nous répudier, au contraire. Et comme on dit mine de mine, eh bien, nous avons fait ce chemin de découverte, et lui avec nous. Et il nous attendait depuis si longtemps. À quel autre irions-nous? Est-ce que j'ai envie d'aller demander quelque chose à Bouddha? Ou à Mahomet? Ou je ne sais pas à quel dieu de ceci ou cela, hein? Non, non. Moi, pour moi, c'est Jésus. Parce qu'il est le chemin. Parce qu'il est la vérité. Parce qu'il est la vie. Et comme je cherche Dieu, nul ne vient au Père que par lui. Tout simplement. C'est Jésus qui le dit, hein. Et Pierre dira ceci, parce qu'il va dire, mais à quel autre irions-nous? Mais nous serions morts, nous serions perdus, nous serions dans la désespérance la plus complète si tu n'étais pas là, Jésus. Et c'est vrai, nous le disons. Et il ajoutera, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Ah oui. C'est pas seulement les paroles de la vie, mais celle-là, elle est éternelle. C'est pas seulement un espoir pour la vie. C'est pas seulement un passe-temps pour avoir une bonne conscience, pour avoir une respectabilité. Les gens religieux aiment bien la respectabilité, ça leur suffit. Ils pensent aller au ciel avec la respectabilité. C'est faux. C'est pas une respectabilité pour aller au ciel que nous avons besoin. C'est un changement complet, radical, de notre âme, de notre esprit. Ça, c'est autre chose, nouvelle naissance. Tu as les paroles de la vie éternelle, parce qu'on vient à la conviction, parce qu'on entend. Et ce que l'on entend, eh bien, ça nous est donné par les paroles de Christ. C'est parce que je crois les paroles de Christ, alors à ce moment-là, la foi se développe à l'intérieur de moi-même. Tu as les paroles de la vie éternelle. Job nous parlait d'éternité. Quand je ne serai plus là, quand mon corps aura disparu, quand je ne serai plus sur cette terre, etc., etc., je contemplerai sa face, je contemplerai mon Dieu. Oui, la vie éternelle. Parce que nous, notre vie, elle est très temporaire. Hein. Très temporelle. Voilà. Ça passe et ça passe vite. Hein. Et nous avons cru, et là nous voyons que c'est un peu comme le burin sur le roc qui est enfoncé, et je prends la force des paroles, et nous avons cru. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ. C'est Paul qui le dit de son côté. Nous avons cru et nous avons connu. Voilà. Parce que nous l'avons connu, eh bien nous avons ajouté foi à ce que nous avons connu, ce que nous avons appris de toi, ce que nous savons, toi, de Jésus. Ce que tu veux bien nous dire, ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras naturellement. Nous avons cru et nous avons connu. L'apôtre Paul dira lui aussi de son côté, à un moment donné, ça doit être dans les Philippiens, si ma mémoire est fidèle, mais ça n'a pas d'importance, je vous assure, c'est dans la Bible. Il dira, mais je sais en qui j'ai cru. Et je peux vous dire que s'il y a un deuxième Job dans le Nouveau Testament, un premier dans l'Ancien et un deuxième, c'était bien l'apôtre Paul. Hein. Parce que les coups de poing, les coups de... tous les coups bas, il en a pris, hein, Paul. C'était un Job, hein, Paul, hein, faut pas se faire d'illusion. Et il dira, mais je sais en qui j'ai cru. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré la méchanceté et la haine qui s'est déployée sur moi, contre moi, eh bien, je sais en qui j'ai cru. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Que tu es le Rédempteur, que tu es le Sauveur, que tu es mort sur la croix, que tu as donné ta vie, que ton sang a coulé, que ton corps a été livré au crachat, au fouet et à tout le reste, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Hein, oui. Saint de Dieu, c'est avec un S majuscule, c'est pas un petit saint, non. C'est loin. C'est celui qui a été mis à part depuis toujours, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, comme sauveur et rédempteur. Oui. Celui qui vaincra le mal, celui qui va vaincre les ténèbres, celui qui vaincra le péché, celui qui vaincra le diable, celui qui vainc le diable, parce que c'est fait aujourd'hui. Hein. Si on se remet finalement eh bien, dans le temps qui est le nôtre, on peut dire que c'est fait, naturellement, le Saint de Dieu. Puis je terminerai par une dernière lecture qui va compléter celle-ci, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Parce que maintenant il faut identifier ce sauveur. Job était enveloppé d'ignorance qui était la caractéristique de son temps puisque la révélation n'était pas encore bien avancée. Mais pourtant il affirme avec une conviction inébranlable. Jésus nous parle et c'est par la bouche de Pierre que nous entendons, nous avons vu et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Quelle belle confession. Et puis nous avons donc Matthieu chapitre 16 verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, toujours Simon-Pierre, il est bien, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Je continue. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » On approche, hein, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, tiens, on retrouve, que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et paradoxe, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Quand vous voulez faire de la publicité, en principe, il faut crier bien fort. Hein. Et là, c'est précisément le contraire. Parce que je voudrais vous dire que la conversion, la foi, l'appel de Dieu, c'est pas à coup de renfort, de propagande ou de publicité dans le bruit et le tapage, c'est dans le secret des cœurs. Ça, c'est une autre affaire. Ah oui. On peut toujours faire du battage, hein, on peut toujours crier dans les rues, voilà, je suis chrétien, et puis convertissez-vous parce que vous irez en enfer, etc., etc. Il y a eu des résultats quelquefois que ceux qui criaient vous allez en enfer, ils se retrouvaient au commissariat, hein. C'est pas l'enfer encore le commissariat, mais ça peut être d'antichambre. Bon, voilà, ceci dit, nous voyons que Jésus, qui est tout à fait naturellement conscient de ce qu'il est et de son œuvre, va demander à ses disciples, qu'est-ce que l'on dit de moi autour de vous? Qu'est-ce que vous avez entendu? Alors là, c'est l'imprécision la plus totale, parce que les gens ont des opinions, mais pas de convictions. Quelle est la différence? Opinion, oh oui. Hein, tel homme, j'ai une opinion sur lui, mais je le connais pas. Mais quand on a une conviction, c'est autre chose. Une conviction relève véritablement d'une connaissance assurée, profonde, établi. Alors, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie, tiens. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Alors à ce moment-là, Jésus va se tourner vers ses disciples et leur dire, mais vous les douze là, qu'est-ce que vous dites que je suis? Parce que vous m'avez vu, vous avez vécu avec moi, vous avez mangé avec moi, vous avez entendu mes messages, vous avez vu mes miracles. Alors, là, on passe non plus dans l'opinion, une vague idée, mais on passe véritablement dans quelque chose qui devient certitude, une assurance. Qui dites-vous que je suis? Et là, notre Simon-Pierre, il est magnifique. Non, mais c'est vrai, hein, il est inspiré quand même. D'ailleurs, Jésus va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Fils de Dieu, et ce Dieu, il est vivant. Tiens, on se retrouve avec un petit peu là. Et je sais que mon Rédempteur est vivant. Il y a la vie partout. Partout dans chaque ligne. Partout où nous avons ouvert notre texte. Tu es le Christ. Le Christ, c'est loin. C'est celui qui va mourir pour les autres. C'est celui qui va être crucifié. Qui va donner sa vie, qui va mourir. Mais qui va ressusciter naturellement. Il est vivant. La vie demeure. La vie ne va pas s'éteindre avec la mort. La vie va continuer, elle va ressurgir, mais sous une autre forme. Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, mais tu es heureux, Simon, hein, de dire des choses pareilles. Vous savez, on est tous des prophètes, hein, quand on confesse Jésus, quand on rend témoignage. On est prophète de la bonne nouvelle. On parle, on dit, et on le dit avec conviction. C'est pas pour remplir l'église, c'est pas pour que les chaises soient remplies. C'est pas notre démarche. C'est pas du mercantilisme pour avoir du nombre, pour dire voilà ceci, cela. Non, c'est pour le salut des âmes, pour montrer que c'est Jésus dont les hommes ont besoin. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de l'amour de Dieu. Ils ont besoin du pardon de Dieu. Alors tu es heureux. Et vous êtes heureux, mes frères et sœurs, ce soir. Ouais? Oui. Non, mais c'est vrai. On est heureux. Soyons heureux d'être ce que l'on est en Jésus-Christ. On peut dire ça comme ça. Tu es heureux, Simon, car ce sont pas la chair et le sang, ce n'est pas tes connaissances, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton éducation de braves juifs, comme on pourrait dire de braves chrétiens d'aujourd'hui, catholiques, protestants, tout ce que vous voulez, vous pouvez mélanger tout ce que vous voulez, hein. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est pas la nature qui t'a rêvé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, révélation de Dieu au fond de notre cœur. Et là, c'est pour ça qu'on peut être heureux. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons compris, ce que nous avons réalisé, là où Dieu nous a donné le coup de main pour nous repentir, hein, et encore, hein, parce qu'autrement on est têtu, hein, et hein, j'ai pas péché, non, je suis bien, alors qu'on est perdu à cause de nos péchés. Alors ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait son œuvre. L'Esprit de Dieu, nous dit la Bible, nous convainc de péché, de justice et de jugement. Voilà. On appelle ça le consolateur. Parce que Jésus est mort pour nous. Il a vaincu le diable et la justice de Dieu a été accomplie à travers Jésus-Christ pour que nous ayons le pardon de Dieu et sa grâce. C'est mon Père qui est dans les cieux par son esprit en moi. À la différence des animaux, les hommes, ils ont un corps comme les animaux. Ils ont une âme, mais supérieure, bien supérieure. Le fait de parler, c'est déjà quelque chose. Vous avez déjà entendu un âne parler ? Un âne peut parler quand c'est un homme qui fait l'âne. Ben, on connaît hein, l'histoire. Vous connaissez, je vous renvoie un peu dans la Bible. Alors, et moi je te le dis que tu es Pierre, dit Jésus. Et sur ce rocher, et c'est là où il y a eu la plus grosse des confusions dans l'Église catholique. Et sur ce rocher, est-ce que Jésus s'adressait à Pierre en disant, toi, petit caillou, Petra, Petrus, Petros, en grec. Est-ce que c'est toi qui vas être le chef de mon église et sur toi va se bâtir mon église? Et un jour tu seras pape à Rome? Tu seras finalement le souverain pontife de toute l'humanité? Nenni. C'est véritablement tordre le sens des Écritures. Hein. Non. Jésus dira, et sur ce roc, Jésus, le roc, le vrai roc, qui c'est? C'est Jésus? C'est lui le fondement? C'est lui la parole vivante, c'est lui la vie éternelle, c'est pas Pierre, parce que Pierre il a fait comme tout le monde, il est mort. Hein. Et sur ce roc, Jésus dit, sur sur ce roc. Je bâtirai mon église. Et l'église, elle est fondée sur Jésus. Elle n'est pas fondée sur un homme. S'appelle-t-il Pierre ? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Puisque le victorieux, ce ne sera pas Pierre de la mort. Parce que Pierre, il est mort en martyr. Prétend-on ? Mais il n'est pas ressuscité, hein. Or, Jésus a vaincu la mort, les portes de la mort ne préviendront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alors ça, c'est intéressant. À votre avis, les clés, imaginez-vous Saint-Pierre, avec une grande barbe, parce que ça pousse depuis des siècles. Il est assis sur un grand trône, là-bas, avec toutes sortes de dorures, etc., etc. C'est mon imagination, hein, attention. Et il attend les entrées. Il est au guichet. Puis il distribue les passeports, là, enfin il vérifie, hein. Vous savez qu'il faut un visa, hein. Et puis il faut des autorisations, séjour, bon, j'arrête. Mais toujours est-il que, non, c'est pas ça, les portes du royaume, imaginez-vous, on a parlé, on fait dans la légende, dans les contes, qui ont induit en erreur, au lieu de conduire les gens à la vérité, on les a conduits dans toutes sortes de nébuleuses, de toutes sortes de... C'est ignoble. C'est ignoble parce qu'il s'agit du salut des gens. Alors avec une grande paire de clés, etc., etc. À moins qu'ils les aient changées, maintenant c'est peut-être des clés électroniques. C'est possible que ça s'est modernisé. Et toujours est-il que quand Jésus lui dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume de Dieu, c'est pas à Pierre seulement. C'est sur la confession de Pierre. Les clés, c'est la confession de Pierre quand il a dit, tu es le saint de Dieu. C'est ça les clés. C'est de dire l'évangile. C'est de dire le cœur de l'évangile. Les clés, c'est pas Pierre, avec sa grande barbe, en attend d'être fermé, d'ouvrir, etc., à droite, à gauche, etc. C'est pas ça. Les clés du royaume des cieux, les clés du royaume de Dieu, c'est la confession magnifique et extraordinaire que Pierre a faite, et c'est là-dessus qu'on est sauvé. Parce qu'il a dit, tu es le Saint de Dieu. Tu es le Christ. Faut remettre les choses en place. Et quand on voit que pendant des siècles et des siècles, on a induit les gens en erreur en disant, regardez, hein, on a bâti tout un salut, une espérance illusoire de salut, en laissant les gens dans le doute, en laissant les gens dans l'angoisse, quant à leur âme, alors que finalement, on est ramené, à quel autre irions-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle, c'est pas ça? On se recoupe, on revient, et ces trois textes, ils s'incorporent les uns dans les autres, c'est comme un puzzle, et ça rentre à la perfection. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Et vous savez que c'était au futur, là, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais pour nous, ce que tu liras, lorsque nous prions, Seigneur, nous pouvons parler au présent, parce que finalement, lier et délier, c'est fait depuis 2000 ans. Et je peux m'assurer sur la toute-puissance de Jésus, sa victoire sur le mal, sur le diable, sur la mort. Et nous voyons que beaucoup d'églises s'en sont emparées pour se donner, non pas une autorité, mais se donner l'autorisation de faire de leur religion une dictature, un dictat, de faire trembler les gens en les menaçant de l'enfer. C'est terrible, hein? C'est terrible, des choses comme ça, hein? Alors il le recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Surtout ne parlez plus de Jésus, hein. Ça va venir tout seul. Non, soyons comme Pierre. Si véritablement l'occasion, elle se présentera, si nous sommes conséquents, parce que nous avons prié pour que Dieu se serve de nous, pour rendre témoignage, pour être ses ambassadeurs, alors à ce moment-là, on sera saisi du Saint-Esprit. Et on parlera à telle ou telle âme, telle ou telle personne qui est en besoin. Pas de crier dans les rues, ça sert à rien. Et à ce moment-là, on leur dira, nous avons connu, et nous avons, et nous savons, et nous avons connu, que Jésus-Christ est la vie éternelle, que c'est lui qui pardonne les péchés, c'est lui qui te guérit maintenant, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui t'apporte, eh bien, tout ce que tu attends. Et on peut le dire maintenant pour chacun d'entre nous, comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se relèvera au dernier jour. Jésus est venu, Il a accompli l'œuvre de Dieu. Il est remonté au ciel. Mais Jésus revient bientôt. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta parole parce que c'est un trésor. Nous voulons croire, Père éternel, que cette parole de Dieu, c'est la vie éternelle parce que je la crois. Elle brille de mille feux, Seigneur, que je la prenne d'une façon ou d'une autre. Eh bien, Seigneur, elle révèle que notre Dieu est un grand Dieu, que Dieu est Dieu, qu'il est le seul et l'unique, que sa volonté, c'est de sauver les hommes. Et nous te bénissons et nous te remercions. Merci pour le témoignage de Job. Merci pour le témoignage de Pierre. Merci, Seigneur, pour ces lignes que nous avons partagées, commentées ensemble. Merci, Seigneur, pour les clés du royaume, parce que depuis que Pierre a dit ce qu'il a dit, eh bien, nous croyons que de par le monde, depuis des siècles et des siècles, eh bien, en effet, nous utilisons ces clés à travers la prédication. Parce que finalement, ces clés, c'est la prédication de l'Évangile, où Jésus est au cœur de ce message. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Merci, Seigneur, tu nous réconfortes. Savons que nous sommes de passage sur la terre. Mais, Seigneur, nous savons qu'un jour, nous serons revêtus d'une autre nature, qui ne sera plus la nature du péché, de la souffrance, de la peine, des douleurs, mais d'une nature infinie, éternelle, perpétuelle, où là, Seigneur, eh bien, nous serons revêtus dans une autre dimension, eh bien, Père éternel, à l'image de Jésus. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur. Je te demande, Seigneur, pour tous ceux qui se posent des questions. Je te demande pour tous ceux qui s'interrogent, pour tous ceux qui ont crainte de la mort. Je te demande, Seigneur, de visiter, eh bien, Père éternel, ceux et celles qui sont complètement déboussolés dans ce monde, d'une façon ou d'une autre. Eh bien, Seigneur, fais-les passer d'une opinion à une véritable conviction. Parce que Jésus est le roc, parce que Jésus est le rocher sur lequel mon âme, ma vie, mon éternité est gravée. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.